Troisième partie. Un cycliste arrivait à grande allure sur la route. Il franchit l'entrée du château, roula le long de l'allée et ne s'arrêta qu'au bas du perron. C'était un homme vêtu de futaine, dont la paupière gauche, agitée d'un tic, ne cessait de faire des clins d'œil. Il tira son chapeau à Charles Fontane, qui s'était avancé et s'exclama: Ils sont dans le truc! Voulez-vous dire qu'ils sont pris? Intervint le détective. Non, mais ils sont dans la pince. On les cerne, on les pousse vers le parc. Seulement, faudrait 5 ou 6 hommes sur la route de Chavance, où ce que la pince, elle est mal fermée. Ohé! Cria le maire. Trois domestiques, le jardinier et son aide, outre 2 personnages amenés par les fontaines, accoururent aux appels. Le maire désigna 5 hommes pour l'accompagner, tandis que Philippe, le détective, Jacques, le valet de chambre, Auguste Montereau, le juge et le greffier devaient rester au château. 3 minutes plus tard, l'automobile de Charles Fontane roulait sur la route de Chavance. Puis on les rabat sur le parc, grommela le juge. Il me semble que la pince reste ouverte de ce côté-ci. Le détective regarda Philippe avec un imperceptible sourire. Mais c'est pas à craindre, répondit le jeune homme. Nous suffirions à couper la retraite. Mais les gens qui poursuivent connaissent le site. Avant que les fugitifs soient près du parc, les issues seront occupées. Il s'interrompit et tendit l'oreille. On discernait la sonnerie lointaine d'une trompe, bientôt suivie d'aboiements. Ah, Martial est en chasse. Allons voir, dit Duguay. C'était l'heure dorée. Déjà, les ombres s'allongeaient démesurément sur les pelouses. Une odeur d'herbe et de corolles montait avec le souffle voluptueux du parc, et la grande contrée, verte, étendue sur la plaine et sur les collines, décelait les énergies de la terre profonde. Le silence s'était refait, le vaste silence où la nature abrite la vie et la mort, la lutte sans merci et la fécondité invincible. Puis de nouveaux sons de trompe. Un homme passa furtivement au travers d'une allée, puis un autre. Des aboiements rapides auxquels répondaient les clameurs des chiens de ferme annoncèrent un drame humain mêlé aux tragédies latentes des futaies. Mais ne vaudrait-il pas mieux que vous rentriez? Demanda anxieusement Philippe en se tournant vers Simone. Elle fit signe que non, d'un hochement énergique. On ouït des voix rudes, puis des pas saccadés. Soudain, un homme de haute stature, aux épaules redoutables, surgit entre la roseraie et le château d'eau. Il s'arrêta, il jeta autour de lui un regard fauve. Malgré la distance, on distinguait un masque taillé à la hache, des mâchoires farouches, des joues ravinées et musculeuses. Cet homme était vêtu d'une horrible veste de panne, tailladée par l'usure et par les épines, et d'un pantalon auquel manquait presque la moitié d'une jambe. Il aperçut le groupe rassemblé à la terrasse. Un ricanement hagard lui contracta le visage, et se glissant entre 2 hêtres rouges, il rentra dans la futaie. Il en ressortit presque aussitôt et se rua vers le château d'eau, puis vers la gauche où l'on voyait un massif de frênes. Des paysans surgirent, il recula et biaisa, rentra de nouveau dans le parc, et en rejaillit 100 mètres plus loin, haletant, avec un grondement où se mêlaient la fatigue, la colère et la menace. Un moment plus tard, il était cerné. Deux hommes gardaient la lisière, un troisième se dressait sur la pelouse et un quatrième, revolver au poing, accourait vers le château d'eau. C'est sur ce dernier que se précipita le fugitif. Les deux hommes se rencontrèrent à quelques mètres de la rive. Rends-toi! Cria le personnage au revolver. D'un geste imprévu, geste d'ours aussi rapide qu'un geste de léopard, l'autre rejeta l'arme tournée contre sa poitrine et saisit son adversaire aux épaules. Il le souleva comme un enfant, le balança au-dessus de l'eau où il parut vouloir le lancer. Mais, se ravisant, il se tourna vers les trois autres hommes qui accouraient à vive allure. Oh, la scène fut prodigieusement brève. Le fugitif précipita l'homme au revolver contre le premier arrivant, bondit, culbuta les deux autres et redisparut pour la troisième fois dans le parc. Déjà, Philippe, Jacques et le détective venaient à la rescousse. Pendant un moment, on entendit le bruit d'une course précipitée. Ensuite, des cris, des jurements, des bruits mous et des détonations. Quand Philippe et Duguay arrivèrent dans la clairière des Daguets, ils trouvèrent trois hommes éclopés, dont l'un hurlait: Garde à vous! Garde à vous! Il a foutu le camp! Mais par où? Cria une voix éclatante. Et Martial Marguigny montra sa silhouette flexible. Par la route de la forêt! Martial jeta un coup d'œil sur les éclopés et murmura: Bon, c'est un gaillard qui travaille proprement. Puis, apercevant Philippe et le détective, il salua. Oh, si j'avais seulement loup-garou et dévorant, remarqua-t-il. Mais je les ai donnés pour acculer les deux autres. Oh, va falloir que je le piche tout seul. Et nous, grommela Duguay. Mais vous n'êtes pas des chiens, soupira l'errant. C'est des nez qu'il faut là-dedans. Entre la pointe du parc et la forêt, il n'y a qu'un saut. Et une fois dans la forêt, c'est une épingle dans une meule. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Suivez-moi, si vous pouvez. Il avait pris son élan. Sa tactique était de couper droit vers la forêt. Partout ailleurs, le fugitif devait se heurter à des poursuivants. D'abord, Philippe et Duguay ne perdirent guère de terrain. Mais à mesure qu'on avançait, les issues se hérissaient d'obstacles. Car Francisca d'Escalante voulait qu'une partie du parc demeurât sauvage. Subtil comme un loup, Marguigny se glissait à travers les broussailles et les épines. Il devint invisible. Philippe n'entendait même plus le frou-frou des faramis et des feuilles. L'errant ne mit qu'une demi-heure pour arriver aux limites du parc. Mais presque impossible qu'il m'ait devancé! Marmonna-t-il. Mais seulement par où va-t-il sortir? Une route barbue et défoncée, une faible bande de terrain séparait le parc de la Sylve. À la rigueur, un homme pouvait passer sans être vu. Tout dépendait de la distance. Martial tendit son oreille de sauvage. Il s'étendit même sur le sol pour mieux entendre. Puis il prit son galop vers le couchant. Deux ou trois fois, il s'immobilisa sans un souffle, prenant conseil de l'air, de la terre, des herbes et des arbres. Quand il fut entré dans la forêt, il changea de direction et poussa un grand cri d'appel, suivi 30 secondes plus tard, une clameur qui semblait venir d'un autre être et d'un autre endroit. Oh, je le cerne! Ricana-t-il avec un âpre sourire. Il filait maintenant en ligne droite. Puis il se glissa au travers d'un fourré très sombre et poussa de nouveau un cri éclatant. Le fourré s'ouvrit. Des roseaux parurent. L'eau d'un marécage scintilla dans un rayon d'émeraude et Barguigne, avec un rire silencieux, apparut à 10 pas du formidable fugitif. « Oh, je le tiens !» s'écria-t-il. Et l'autre, repressant son torse musclé, répondit en héros de Sparte, « Viens me prendre !» Martial avait capturé le colosse, aidé bientôt par 2 des sous-poursuivants. Le détective, ayant reconnu un récidiviste, commença l'interrogatoire, repris plus tard par le juge. Il n'avait pu obtenir aucune réponse précise. Alors Simone demanda à interroger l'homme. Avec sa face bourrue, ses yeux d'ours, il lui inspirait une sorte de confiance. Lui la regardait avec étonnement et timidité, et il finit par dire « Bob, j'y répondrai à elle seule. »« Laissez-moi avec lui, » dit Simone. Les autres essayaient de la dissuader, mais elle s'obstina dans sa résolution. Quand elle fut seule avec le misérable, il demeura un moment silencieux, les sourcils contractés, plongé dans une rêverie chagrine. Il demanda enfin « La bouche m'a parlé d'un os de jambon. C'est-il qu'on l'a trouvé à manche d'os ou qui avait écrit « Mon cœur a fonzine et mort au foie blanc » ?» La question aurait pu paraître insidieuse au détective. Mais Simon n'hésita pas à répondre « Oui. » Et dans la forêt, mademoiselle? Dans la forêt. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors, grommela le prisonnier, il n'y a pas d'erreur, c'est lui qui a fait le coup. Et qu'on soit un peu pour lui, il n'y a pas, c'est canulant. Sa lourde face se coupait de plis énormes, et il serrait les mâchoires. « Mais croiriez-vous ? » fit-il à voix basse. « Si c'était pas pour vous, eh bien, je marcherais pas tout de même, mais j'ai pas 2 langues. Alors, l'os de jambon est à tenaille. Un type costaud, presque aussi costaud que moi, qui fait jadis de la brocante. Il y aura qu'à le nommer à la mouche. Pas de danger ! On le connaît dans la piaule du bord de l'eau. » Il parlait vite, d'une voix haletante, et quand il s'arrêta, il avait un petit frémissement au coin des lèvres. « Vous n'allez pas croire que je suis un salaud » ajouta-t-il avec désolation. « Non, » dit-elle doucement, « je crois que vous êtes franc et courageux. »« Oh !» cria le gris, comme en extase. « Si vous saviez ce que c'est bon pour un pauvre bouc de s'entendre dire ça !» Elle le regardait avec compassion. Dans son âme intuitive, elle était sûre que ce malheureux n'était pas de la race des criminels. Elle repartit. « Merci, ce service vous sera compté. »« Oh ! J'évite-t-il un service ? » « Ça me ferait plaisir, allez, de me faire casser les pattes pour des gens comme vous. »« Seulement, où qui sont ?» Duguay attendait avec patience le résultat de l'entrevue. Il n'en espérait rien d'utile, mais par principe, il ne dédaignait aucun concours. Il regarda attentivement Simone, sourit du coin de l'œil et affirma « Vous ne revenez pas bredouille ?»« Non, dit-elle, mais je voudrais que vous me fissiez une promesse. » « Laquelle ? » demanda-t-il astucieusement. « Bien, je crois que les criminels se vengent parfois de ceux qui les dénoncent. Il acquiesce ça d'un hochement de tête. Eh bien, il faudrait que vous ne disiez à personne ce que je vais vous apprendre. Si c'est dans l'ordre des choses légitimes, personne ne le saura de ma bouche. Je crois que c'est légitime. D'ailleurs, je m'en rapporterai à votre loyauté. Oh, en général, la loyauté n'est pas de ma compétence, avertit-il. N'importe, vous tiendrez parole. Alors voici, l'os de jambon appartient à un nommé Tenaille, un ancien brocanteur. Ah bah, s'exclama Duguay, qui le put celer complètement un mouvement de surprise. Tout de suite, son visage se roidit et ses yeux se dépolirent. Facile à vérifier. Tenaille est un gros seigneur de la pègre, très habile et très redouté. Dans l'espèce, j'aimerais assez qu'il soit coupable. On pourrait s'attendre à des complications. Oh, l'affaire deviendrait amusante. Et il se reprit avec un bredouillement. Enfin, je veux dire que les chances en faveur de Madame de Escandre seraient beaucoup plus grandes. Mais pourquoi s'attendrait-on à des complications? Demanda Simone. Ben, d'abord parce que Tenaille est beaucoup plus futé que notre homme qui est un malandrin de troisième classe. Ensuite parce que Tenaille opère par destination à Paris. Pour qu'il soit venu à la campagne, il doit avoir un motif sérieux. Donc la préméditation, une préméditation savante, est probable. Et naturellement, toute l'affaire en prend de l'allure. Il avait peine à cacher son contentement. Jusqu'alors, il n'avait eu que des déboires. Chaque fait nouveau rendait plus plausible un crime vulgaire et inepte. Le seul épisode passionnant demeurait la disparition complète de la victime. Mais avec Tenaille, avec la perspective d'un coup mijoté à distance, on pouvait travailler. J'aurais parié que nous faisions fausse route, reprit-il. Mais comment faire autrement? On a vu trois hommes dans la forêt, leur signalement répond grosso modo au signalement de l'Audrey. Toutes les règles du jeu exigeaient leur arrestation. C'est égal. Si l'Hercule n'avait pas parlé, nous risquions de patauger pendant des semaines. Et c'est pas moi qui leur ai parlé. Mais comment avez-vous bien pu faire, mademoiselle? Ben, je lui ai dit que je ne le croyais pas coupable, et c'est ma conviction. Oh, votre conviction, fit l'autre avec une imperceptible pointe de goguenardise. Tout de même, l'expérience la plus consommée ne vous aurait rien suggéré d'aussi habile. Alors pourquoi n'avez-vous pas fait? Il eut un rire sec et bref. Je ne suis pas une jeune fille, hélas. De ma part, il n'aurait vu là qu'une odieuse ruse de guerre. Puis, ils n'ont aucun souci de notre estime. Simone de Vaugelade pencha le front. L'espoir, si faible naguère, battait à grandes ailes. Elle continuait à sentir toute espèce de perception nouvelle, en même temps qu'une curiosité ardente. De plus en plus, elle voulait savoir. Est-ce que vous croyez qu'on pourra promptement arrêter ce Tenaille? Demanda-t-elle. Oh, je ne sais. Il a tant de tours dans son sac. Une chose pourtant le dessert, sa haute taille et sa silhouette massive. Il n'y a guère que 7 ou 8 bandits avec lesquels on puisse le confondre. Pour le criminel comme pour le policier, il faut avoir l'aspect quelconque. Ni nain, ni géant, ni boiteux, ni manchot. Encore un nain peut-il s'étoffer. Un manchot s'ajouter un bras. Mais que Tenaille se grossisse, Le truc ne prendra point. On l'a arrêté souvent? Non, sa ruse consiste à n'être pas soupçonné, à ne pas laisser de traces. Il y a 4 ans que nous ne pouvons rien contre lui. Ce qu'il a dû commettre de crime. Oh, c'est un joli lutteur, acheva le détective avec une nuance d'admiration. Et ce serait bien agréable de lui servir un knock-out. Elle écoutait avec un intérêt croissant. Alors, il faut travailler, reprit-il. Vous avez nécessairement le téléphone, mais communiquez-vous avec Paris. Peut-être pas à 7 heures. Il faudrait que le téléphoniste de Livrane fût averti. Mais c'est tout près, Livrane. L'automobile qui m'a conduit a mis 1 heure à peine. J'irai. Et si le VAR est disponible à la préfecture, on pourra marcher dès ce soir. 7 heures. Allez, merci, mademoiselle. Quand il eut disparu, Simone se réfugia dans sa chambre. Elle avait la fièvre. Mais n'ont pourtant pas pu la transporter jusqu'à Paris, songeait-elle. On les aurait vus. Ah, pourtant, s'ils avaient une automobile. Il faudrait savoir s'il a paru des voitures inconnues dans le pays. Oui, mais l'orage. Tandis qu'elle réfléchissait ainsi ardemment, le valet de chambre se présenta. Il y avait du trouble sur son visage et dans ses gestes. C'est Martial Barguigne qui demande à voir, mademoiselle. Il dit qu'il revient de là-bas et qu'il a vu des choses. Martial entra de son pas furtif de coureur des bois. Une fierté tranquille et sans forfanterie s'exhalait de toute sa personne. La face sauvage, éclairée de grands yeux fauves, ne montrait aucune ligne ignoble, aucun méplat brutal. Et l'on devinait que cet homme ne subissait l'ascendant d'aucune créature. Qu'avez-vous découvert, monsieur Barguigne? Demanda doucement la jeune fille. Mais ceci et ceci, répondit-il en montrant un grand gant pâle et une petite cravate d'Irlande. Le cœur de mademoiselle de Brouglade palpita. Mais où les avez-vous trouvés? Fit-elle d'une voix faible. Dans la crevasse aux mésanges. C'était une anfractuosité creusée dans la porphyre entre le sommet et la base d'un roc. Mais alors, haleta Simone. Mais alors, madame de Scalante a probablement franchi le lac et est arrivée jusqu'aux roches bleues. Elle s'est cachée dans la crevasse. On y arrive difficilement à travers les broussailles. Faut être du pays pour le savoir, et il n'y a place que pour une seule personne. Donc on n'y a pas été en même temps qu'elle. Il m'est revenu tout à l'heure que madame de Descamps connaissait la crevasse et qu'elle avait bien pu y chercher un refuge. Je crois que je ne me suis pas trompé. Simone contemplait le gant et la petite cravate avec une telle émotion que ses yeux s'emplissaient de larmes. Martial poursuivit. Ben, il n'y a pas de voie pour en sortir. Le roc est presque partout à pic. Si les bandits l'ont capturé là, ou bien ils ont tenu qu'elle les suive, ou bien ils l'ont traîné sur la pente. La plupart du temps, un seul pouvait la traîner, et à condition d'être rudement fort. Il y avait avec eux un homme très vigoureux. Je le sais, mademoiselle, mais quand on est descendu des roches bleues, ce n'est pas fini, pas de chemin, rien que des méchants sentiers pleins de broussailles et d'épines. La route est à 800 mètres qui en valent 2 000. Oh, j'ai fureté tout autour avec loup-garou et dévorant, histoire de vous rendre compte, rien. Sur la route, je ne sais pas, une voiture pouvait attendre. Vous n'avez pas eu l'idée de demander aux gens. Oh, mademoiselle, mais c'est fait depuis ce matin. À moins d'un miracle, il n'y a que quatre routes possibles. Et sur toutes les quatre, il y a des maisons et des cahutes. J'ai interrogé les bonnes gens. Personne n'a vu de voiture inconnue, ni l'après-midi, ni le soir. Possible qu'il y ait des erreurs. Même, ce serait extraordinaire. Hélas, tout est extraordinaire dans cette aventure, dit rêveusement Mademoiselle de Vaugelas. C'est égal, monsieur Barguigne. On ne pouvait pas faire plus que vous n'avez fait. Tout ce qu'il a été possible de découvrir, vous l'avez découvert. Sans vous, on ne serait littéralement rien du tout. Oh, nous ne l'oublierons jamais. Il eut un geste d'inquiétude. Il craignait qu'elle ne fît allusion à une récompense, et son visage s'assombrit. Mais elle connaissait bien l'errant. Elle se borna à lui tendre la main. Il la prit avec un plaisir calme et grave. Mais considérons comme possible que Madame de Escalante soit dans le pays, demanda-t-elle. Les sourcils de Martial ne formèrent plus en se rapprochant qu'une seule barre velue. Dans la forêt, ouf, il faudrait qu'elle y soit cachée. Bon, je connais quelques cahutes vides, j'en ai visité plusieurs déjà. Je verrai les autres. Il y a aussi quelques trous qui peuvent servir de cachette. Tous sont bien incommodes. Chez les bonnes gens, impossible. Dans un château, il faudrait des complices riches ou des domestiques. Oh, je n'y crois pas, mademoiselle. Ni moi, fit-elle. Donc il faut chercher plus loin. Possible, à moins que, commença-t-il, sentant basaner près d'une teinte ocreuse. À moins que, dit-elle avidement. Il hésita, puis, à moins qu'on ne les ramène au lac. Il est grand, il y a des fonds et c'est difficile de draguer. Oh, je ne crois pas non plus. Enfin, mademoiselle, je ne lâche rien. Tantôt, au clair de lune, je ferai une tournée par les trois sources. Et demain, nous marcherons ferme, Loup-Garouet, Dévorant et moi. Évidemment, il se passionnait. L'instinct de poursuite était en lui, qui est le grand jeu primitif. Et malgré sa peine, il y avait aussi de ce jeu exaltant dans l'âme de la jeune fille. Tandis qu'il se taisait, rêveur, on frappa doucement et une femme de chambre parut. C'est Henriot, le garde-chasse, qui voudrait dire un mot à mademoiselle. Il est donc de retour, s'exclama Barguigne. Faites entrer, dit Simone. Non, 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 monsieur Barguigne, ne vous retirez pas encore. Ces paroles de confiance amenèrent un rire silencieux sur les lèvres du sauvage. Le garde-chasse montra une barbe feuille morte et des yeux triangulaires. Au repos, il avait un air irrité et plein de méfiance. Pardon, excuse, mademoiselle, je suis rentré tantôt et j'ai trouvé ça. Il exhibait une enveloppe bleuâtre qui portait une suscription. Monsieur Michel de Vaugelas. Même à distance, Simone avait reconnu l'écriture de Francisca. Elle prit le pli, le tâta involontairement et le déposa sur une table. Ses yeux étincelaient. Et où l'avez-vous trouvé? Ben, dans ma boîte aux lettres, mademoiselle. Fameux, dit tout bas Martial. Si la vue même du pli surprenait Mademoiselle de Vaugelas, elle estimait assez naturel qu'il se fût trouvé chez le garde-chasse. Il n'y avait qu'à se rappeler les péripéties de la poursuite. Bien, je vous remercie, fit-elle gentiment. C'est tout? Demanda Martial. C'est tout, riposta le garde d'une voix rauque, mais avec un sourire aimable. Car il regardait l'errant comme un allié naturel. C'est pas assez? Oh, mais non, c'est plus qu'on espérait. Un moment, les regards convergèrent sur le petit rectangle pâle. Un geste de Simone, Barguigne comprit qu'il fallait la laisser seule. Offrons-nous ensemble, dit-il à Henriot, d'autant plus que c'est peut-être pas inutile de causer. Demeurée seule, Simone saisit fiévreusement la missive. Elle l'observait avec un mélange de peur et d'espérance. Puis-je l'ouvrir? Se demandait-elle. Michel ne sera ici que demain, et d'ici demain. Elle savait bien que Michel ne lui ferait aucun reproche, ni Francisca, si jamais Francisca devait reparaître. Tout de même, elle éprouvait une scrupule presque mystique. Si encore elle n'avait pas été si curieuse. Mais la curiosité s'élevait en elle comme un péché, et par réaction doublait son scrupule. Sa vie n'en dépend-elle pas? Elle prit un léger coup de papier, d'un trait vif, déchira le côté supérieur. Il y avait une seconde enveloppe. On y lisait personnel. Simone sentit qu'elle n'irait pas plus loin. Elle le sentit avec dépit et presque avec colère. Elle se le reprochait en vain, mais le scrupule était devant elle comme un mur. La nuit. Sur les baies occidentales s'attardait une lueur de béryl nuée de grenats. Vesper tremblait au-dessus des ramures, et la nuit soupirante, avec ses encens et ses baumes, s'abattait mollement sur les pelouses. La corne d'une automobile sonna sur la route. Ce ne pouvait pas être Duguay, il y avait à peine 1 heure et demie qu'il était parti. Plus probablement, c'était un des Fontanes. Dans l'état d'énervement où se trouvait Simone, tout visiteur serait le bienvenu, et les Fontanes étaient de bon conseil. Elle tourna le commutateur, puis elle écouta, endolorie d'impatience. Une voix retentit qui la fit pâlir. La voix de Michel de Vaugelade. Oh, ne se demanda pas pourquoi il arrivait avec 12 heures d'avance. Elle se précipita dans le corridor, haletante et tenant dans la main la lettre de Francisca. À peine Simone avait-elle franchi le seuil de la porte, qu'elle aperçut son frère. Il s'avançait au détour du corridor, suivi du valet de chambre. Tragiquement pâle à la vue de sa sœur, il s'immobilisa comme saisi d'épouvante. Puis il la prit contre son cœur et l'étreignit désespérément. Il ressemblait à Mademoiselle de Vaugelade, mais il semblait plus ombrageux et plus grave. Alors qu'elle ne demandait qu'à rire à la vie, il montrait des yeux où l'énergie se nuançait vite d'inquiétude ou de ferveur. Il était de ces hommes qui ne peuvent se passer d'un but. L'entreprise, la lutte, la passion leur sont aussi nécessaires que l'oxygène. Plus naïf que Simone, malgré une expérience supérieure, il s'exaltait vite et ne devait jamais s'adapter aux raisons du sort et des êtres. Est-ce possible? murmura-t-il d'une voix sourde. Ses larges yeux gris exprimaient un désespoir insondable. Des sanglots contenus soulevèrent ses côtes. Il se laissa entraîner dans le salon et, quand ils furent seuls, il demanda: Mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a fait? Comme il avait appris peu de choses, hâtivement, elle s'efforça de lui narrer l'aventure avec concision et clarté. Il écoutait, pantelant d'angoisse, de tendresse et de fureur. Quand elle eut fini, il demeura un instant muet. Tout son grand corps grelottait comme saisi par un froid glacial. Puis il poussa un cri éclatant. Oh, s'ils l'ont tué, malheur à eux, ils mourront. La survie de ces assassins serait un sacrilège, une abomination. Une énergie formidable contractait son visage. Puis il s'effondra, secoué de rauques sanglots. Simone le regardait, saisie de pitié immense. Elle savait bien qu'il aimait Francisca, mais elle avait cru que c'était un amour de jeune homme qui finirait par se convertir en tendresse. Devant cette douleur orageuse, elle concevait une passion farouche et indestructible. Homme d'action, il se redressa vite. Ses yeux chauds de larmes commencèrent à lire la lettre que lui avait adressée Madame de Escalante. Et quand il l'eut parcourue, il la reprit une deuxième fois et silencieusement il la passa à Simone. Elle lut. Mon cher Michel, vous savez que je crois aux avertissements mystérieux que nous donne la destinée. J'ai la certitude que je vais courir de graves dangers, des dangers inévitables qui me frapperont, quoi que je fasse. Il me semble même que je suis en danger de mort. J'aime la vie à cause d'elle-même, à cause de vous et de Simone, qui êtes de délicieux compagnons de route. Et en tout temps, il m'aurait été pénible de périr. Mais j'ai un motif nouveau de bonheur qui rend plus cruels les périls qui me menacent et qui veut aussi que je prenne des mesures exceptionnelles. J'ai donc refait mon testament. Je vous lègue tout, mon cher Michel, à vous et à Simone, sachant que vous exécuterez ma dernière volonté sans que j'aie ajouté aucune clause officielle au papier que j'ai remis à mon notaire. Quoi qu'il arrive, vous garderez pour vous deux le quart de ma fortune immobilière. Je le veux. Ensuite, vous remettrez 30 000 francs à chacun de mes serviteurs et servantes. Et le demeurant, qui s'élève à environ 7 millions, et à quoi il faut joindre ma terre des Éperviers, mon domaine de Francquemont, une maison de l'avenue du Bois de Boulogne, fera retour à mon héritière naturelle. J'ai cru jusqu'à présent que cette héritière était Michaela, mais il est à peu près certain aujourd'hui que ce sera ma fille Rosario. Vous savez que je la croyais morte, et il n'y avait pas la moindre raison pour ne pas le croire. Sa mort m'avait présenté aucune particularité suspecte. Elle fut cependant plus douloureuse parce qu'elle survint pendant que je l'accompagnais, mon mari alors malade, lors d'un voyage indispensable aux États-Unis. Quand nous revînmes, je fis en sorte de revoir le corps. Il ressemblait incontestablement à celui de Rosario, mais avait subi des changements qui ne permettaient pas une reconnaissance minutieuse. D'ailleurs, nous n'avions aucun motif pour soupçonner ni les êtres ni les circonstances. Et quoique j'eusse eu, oh, je ne sais quel doute obscur, je ne pensais jamais par la suite à Rosario que pour la pleurer. Or, je viens de recevoir une lettre qui éclaire le passé et change la signification de toute mon existence. Cette lettre émane de la veuve d'un ancien serviteur des Escalantes, et en voici la traduction. Madame, avant de mourir, mon mari, Ramon Narcos, m'a confessé qu'il avait enlevé votre fille Rosario et qu'il lui avait substitué le corps d'une morte. Il n'est pas entièrement responsable de cette mauvaise action. Elle lui fut commandée par une personne qui avait un grand pouvoir sur lui. Jamais il n'a voulu me dire le nom de cette personne, ni même si c'était un homme ou une femme. Je vais partir pour l'Europe. Je vous apporterai votre petite Rosario. Vous la reconnaîtrez tellement elle ressemble à son père, et vous pardonnerez à Ramon qui a voulu réparer son crime et s'en est amèrement repenti. Il m'a dit aussi d'être prudente parce qu'il y avait du danger. Cette lettre est datée de Montevideo. Elle ne porte aucune adresse. Vous comprendrez, mon cher Michel, Dans quelle transe, mêlée de joie, je vis depuis plusieurs jours. Je recopie ma lettre et j'en déposerai le double chez mon notaire à qui je donnerai les indications utiles. Malgré mes pressentiments, j'ai presque la certitude de vous revoir, mais je me sens contrainte de prendre les précautions les plus minutieuses. Ces pressentiments, fit tout bas Michel, lui ont vraisemblablement été suggérés par la dernière phrase de la veuve Arcos. Et surtout par l'événement même, répondit sur le même ton Simone. Car il renferme à coup sûr une menace, et pour une imagination aussi sombre. Oui, mais pourquoi Francisca est-elle allée dans la forêt? Par fatalisme, elle ne devait pas s'y croire en danger plutôt qu'ailleurs. Dans le silence frémissant qui suivit, Michel ne cessait de voir les profondes futaies où s'était accompli le drame. C'était sa forêt, sauvage et vénérable, âpre et douce. Il ne pouvait concevoir qu'elle eût été funeste à Francisca. Et il dit soudain: Mais qu'est-ce que tu crois? Car, comme beaucoup d'hommes énergiques, il avait confiance dans l'intuition féminine. Elle hésitait, craignant également le désespoir et de lui préparer une déception. Elle prit un moyen terme. Les chances sont grandes. Songe que sa trace est perdue, mais que rien, absolument rien, n'indique qu'elle ait péri dans la forêt. Il ne demandait qu'à se laisser piper par l'espoir. Un besoin d'action s'élevait en lui, si âpre et si violent qu'il ne devait céder que devant la pire évidence. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas connexité entre la lettre de la veuve de Ramon et la disparition de Francisca? Et quelle connexité! Oh, je ne puis croire que cette femme ait écrit à quelque autre personne qu'à notre ami, surtout à l'ennemi. Oh, je ne crois pas non plus qu'elle l'ait fait, mais quoi? Simone secoua doucement la tête. Cent idées s'y heurtaient qu'elle ne parvenait pas à mettre en ordre. Loin de s'éclaircir, l'affaire s'était en somme obscurcie. On ne savait pas même à quel motif mille avait pu obéir celui ou celle qui avait voulu la substitution. Problème d'argent ou vengeance? Et si c'était une vengeance, quelles ténèbres devant son origine! Et si c'était un problème d'argent, 10 hypothèses étaient plausibles. Mais personne n'avait intérêt à la mort de notre ami, fit péremptoirement Michel, dont l'imagination suivait des voies parallèles à celles que suivait la pensée de Simone. Au moins en apparence, concéda la jeune fille. À table, ils se trouvèrent avec Monsieur Duvar, qui avait accepté à dîner. Michel ne mangea pas, Simone guère, mais Monsieur Duvar savourait avec intelligence cette joie sûre qui accompagne la mastication des mets savoureux. Il émettait par intervalles des paroles positives et ne décourageant aucune des hypothèses que suggérait le jeune homme. Croyez-vous qu'on arrête rapidement Tenaille? Demanda celui-ci au moment où 9 heures sonnaient à l'horloge des éperviers et à la tour des Saint-Michel et Nicolas. Oh, c'est l'affaire de Duguay, répondit le juge en suçant ses fraises. Je vais donner les ordres nécessaires, mais. Ah, je crois que le voici, dit Simone, qui depuis un moment semblait distraite. La porte s'ouvrit. À côté de Jacques, on aperçut le visage glabre du détective. Mais j'ai eu de la chance, annonça-t-il.